Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, on parle ce soir des penseurs du web. Alors, qui sont les plus importants penseurs du web et d'Internet? Quels sont les livres majeurs qu'il faut absolument, ou essayer en tout cas d'avoir lu pour comprendre le numérique? Ce qui peut vous donner des idées de lecture pour l'été. Les idées et concepts à connaître, les sujets qui font débat. En 2015, nous avions déjà consacré une émission Soft Power, une émission entière à ces penseurs, depuis les pères fondateurs, George Orwell, Marshall McLuhan, ou encore Gilles Deleuze, aux écrivains. On avait cité Jonathan Franzen, Dave Eggers, Thomas Pynchon, en passant par les économistes tels Jeremy Rifkin ou Chris Anderson, les intellectuels Zygmunt Bauman, Bruno Latour et quelques penseurs atypiques. Je me souviens qu'on avait cité Lawrence Lessig, Dana Boyd, Ray Kurzweil, etc. Une émission qui avait provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, chacun souhaitant bien sûr ajouter ses propres penseurs ou penseuses, Fred Turner, Jacques Ellul, Norbert Wiener, etc. Alors aujourd'hui, je vous propose, dans les minutes qui nous sont, qui suivent, on ne va pas tout refaire, mais on a décidé de mettre à jour un tout petit peu cette liste avec quelques auteurs et quelques réflexions qui nous semblent, en toute subjectivité et sans aucune volonté d'exhaustivité une nouvelle fois, mériter que l'on s'attarde sur leurs œuvres. Alors pour en discuter ce soir dans ce studio, sont restés avec nous Sandrine Cassini du journal Le Monde, Gilles Fontaine de Challenge, Yves Citon, également resté avec nous, et Zoé Sfès de France Culture. On commence peut-être avec vous, Sandrine Cassini. Vous souhaitiez ajouter deux penseurs par rapport aux listes qu'on avait déjà faites.
Oui, tout à fait. Je souhaitais ajouter Eric Brynjolfsson et Andrew McAfee. Ce sont deux économistes chercheurs du MIT. Ils ont contribué pour trois ouvrages à la pensée de l'Internet, du numérique, de la technologie. Ils ont commencé avec un ouvrage qui s'appelait Rage Against the Machine en 2011. Et puis, un autre ouvrage qui a connu un succès mondial, alors qui peut paraître un petit peu vieux, mais qui est très actuel, qui est Le deuxième âge de la machine. Et un dernier ouvrage, Des machines, des plateformes et des foules, il y a 2 ans. Alors, tout ça s'inscrit dans une continuité. Ce qui est intéressant chez eux, c'est la façon dont ils expliquent et ils veulent démontrer pourquoi la technologie, d'une manière générale, c'est-à-dire l'Internet, les ordinateurs, la puissance de calcul, l'intelligence artificielle, etc., est une nouvelle révolution industrielle, au même titre que l'a été la même importance que la machine à vapeur ou l'électricité il y a 2 siècles. On peut considérer que c'est pas... Pour peut-être chez nous, parce qu'on aime bien la technologie, on peut considérer que ça comme évident, mais ça ne l'est pas du tout. Chez les économistes, ça fait d'ailleurs débat. Personne ne considère parce que ça n'a pas pour l'instant les caractéristiques d'une révolution industrielle, à savoir il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de productivité issue des technologies, ça n'a pas résolu le problème de l'emploi. Donc ce qui a été le contraire un petit peu des innovations précédentes. Et là, eux s'attachent à le démontrer. Donc, parce que pour eux, la technologie, c'est un peu, ils font cette comparaison qui est assez fondatrice. Ils la comparent à la machine à vapeur. La machine à vapeur a permis de renforcer la puissance musculaire, à automatiser la tâche, à renforcer la puissance, on va dire, physique. Et l'ordinateur, enfin, de façon extensive, lui, permet de renforcer la puissance intellectuelle. Et c'est ça qui fait, pour lui, la caractéristique de cette révolution. Donc, pourquoi aujourd'hui ça ne se traduit pas dans les chiffres ? De manière macroéconomique, c'est parce que, selon eux, on est au tout début de cette révolution, même si l'ordinateur existe depuis, on va dire, l'après-guerre. Internet n'est pas si vieux, de manière générale, c'est 95. Donc, on est au tout début. L'électricité, ça a mis quasiment 100 ans avant d'être dans tous les foyers. Donc, il faut être patient.
On n'est qu'au début de cette révolution.
On n'est qu'au début, selon eux. Exactement. Donc, et après, il y a un moment, toujours, souvent quand il y a une technologie, il y a un moment, il y a un effet de cliquer et il y a une croissance exponentielle. Enfin, les effets sont démultipliés à un certain moment, on n'en est pas encore là.
Et déjà un petit peu quand même, mais...
Oui, dans les innovations, mais on peut dire que ça va, par exemple, l'intelligence artificielle, ça peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente. Enfin, selon les chercheurs, elle n'a pas du tout atteint les capacités de l'homme. On n'est pas encore capable de faire des diagnostics médicaux. Elle ne remplace pas du tout la pensée humaine. Peut-être qu'on n'arrivera pas là, mais en tout cas, on n'est qu'au début. Donc voilà, c'est
une réaction sur ces auteurs, quelqu'un ?
Oui, je connaissais pas en fait. Ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent de cette mutation en cours.
L'idée que finalement la machine renforcer le physique, remplacer l'effort physique, mais que l'intelligence est remplacée par l'ordinateur ou en tout cas renforcée.
C'est démultiplié.
Démultiplié.
Et que ces cycles sont beaucoup plus courts. Enfin, surtout que la machine à vapeur, c'était comme le disait Sandrine, c'était des décennies et des décennies.
Vous étiez encore assez jeune à l'époque.
J'étais encore assez jeune, Frédéric. On était ensemble pour le bac à sable, mais. C'est vrai que ça mérite d'abord c'est un petit peu effrayant aussi. Je fais la transition peut-être avec mon auteur à moi si vous voulez puisque
absolument. Alors votre dedans, auteur.
Je voulais parler de Jean-Claude Van Damme au départ, mais vous dites, nos auditeurs n'étaient pas forcément très aware. Donc je vous propose de parler de Kai Fu Lee qui est un.
On connaît beaucoup plus.
Qui est beaucoup mieux, qui n'est pas un champion de karaté, mais qui est un grand.
Quand même un
penseur,
super power.
Qui est un grand penseur chinois à la fois de l'internet et de l'intelligence artificielle. Ce monsieur a passé une grande partie, il a 57 ans aujourd'hui, mais il a passé quand même 25 ans de sa vie aux États-Unis. Il est diplômé de Carnegie Mellon. À l'époque, son sujet de thèse, déjà, c'était la reconnaissance vocale. On a fait quand même pas mal il s'est passé pas mal de choses depuis sur ce terrain-là. Et effectivement, il a sorti un livre aux États-Unis l'an dernier qui va paraître en France à la rentrée, enfin en français, et qui évoque justement ces super powers. Alors ça s'appellera pas comme ça en français, malheureusement. Je trouve que le titre était très bien et allait très bien en français. Mais qui évoque très bien cette bagarre entre les États-Unis, la Silicon Valley pour être plus précis, et la Chine sur ce terrain de l'intelligence artificielle. Et alors lui, l'Europe, n'en parlons même plus parce qu'on est de toute façon complètement largué, parce qu'on a raté tous les rendez-vous. Et finalement, on n'a pas du tout profité des effets de levier qu'on réussit à mettre en place.
Mais au moins, on a une CNIL, donc c'est déjà pas mal.
Mais on a une très bonne CNIL et très efficace et qui fédère les autres CNIL européennes, comme nous l'expliquait tout à l'heure Marie-Laure Denis. Le gros travail de la Silicon Valley, c'était cette espèce d'ultra-collaboration interdisciplinaire entre les différents acteurs. C'est-à-dire que les gens des semi-conducteurs ont travaillé avec les gens du PC, qui ont travaillé avec les gens du logiciel, qui ont travaillé avec les gens de l'Internet, qui ont travaillé avec les gens des réseaux sociaux et avec les gens du... Tout ça a créé une espèce de grand cercle vertueux qui a très bien fonctionné. Et maintenant, tous ces gens travaillent avec les gens qui font de l'intelligence artificielle. La Chine est arrivée beaucoup plus tard. Ils sont à la traîne surtout, donc ils font ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils font le fameux leapfrog, le saut du crapaud, et ils passent directement aux technologies les plus récentes. Ils ont un autre avantage, c'est quand même leur marché, près d'1,5 milliard de consommateurs, une culture unique, une langue unique,
quasi unique,
dictature, on peut le dire aussi un peu unique. Donc ça va beaucoup plus vite. Et il raconte tout ça dans son livre, Kai Fu Lee. Et puis finalement, ça c'est pas forcément dans le livre, mais il le dit parce que je vous conseille d'ailleurs ces conférences TED qui sont assez courtes et remarquables pour des gens comme moi. Je comprends à peu près tout ce qu'il me dit. Il me parle d'intelligence artificielle et j'arrive à comprendre tous les enjeux. Il est très clair, il est drôle en plus. Mais là où il est moins drôle, c'est qu'il dit que pour les Américains, en fait, c'est fini aussi et que la Silicon Valley, c'est mort. Pour une seule raison, c'est qu'ils n'ont pas la masse critique pour cette fameuse intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, la matière brute, c'est de la donnée. Et la donnée, ils l'ont massivement en Chine aujourd'hui. Alors, les géants chinois de l'Internet suivent, sont effectivement très très présents sur ce marché chinois. Les Américains sont plus sur les États-Unis et sur les pays développés, où on a justement toutes ces contraintes réglementaires, etc., qui n'existent pas en Chine. Et donc, l'intelligence artificielle, ça va encore plus vite aux États-Unis.
Sandrine Cassini, brièvement.
Oui, j'ai l'impression, juste pour modérer le propos de Kai Fu Lee, j'ai l'impression qu'il prêche un peu pour sa paroisse, mais parce qu'il y a tout un mouvement dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, de la part des GAFA, qui voient bien ces contraintes réglementaires arriver, en tout cas l'attention qui est portée par l'utilisateur à leurs données. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de travaux et d'essais pour faire de l'intelligence artificielle avec le moins de données possible. Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes sont très puissants. Il y a
Machine learning,
avec du, ça s'appelle.
On apprend aux machines à faire.
À apprendre, ouais.
À apprendre et à faire les choses toutes seules.
Oui, mais ça, c'est aujourd'hui, c'est. Oui, c'est mais... le dur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est le machine learning, le deep learning, donc il faut traiter énormément la donnée pour en traiter les machines. Et Sandrine, effectivement, évoque le fait qu'il y a aussi plein d'autres pistes, mais qui sont beaucoup moins mûres que celle-ci.
Oui, mais du coup, est-ce que demain, enfin, juste pour revenir là-dessus, c'est est-ce que demain, il faudra vraiment une capacité de données immense pour faire de l'intelligence artificielle, ou est-ce que ça va juste dépendre du talent des ingénieurs? Quand on voit tous les rachats d'entreprises par les Google et compagnie, on peut dire que la bataille n'est pas forcément
perdue. La bataille
perdue.
Entre la Chine et les États-Unis continuera, on en reparlera dans cette émission. Yves Citon, professeur Citon, vous aviez envie de défendre un auteur qui s'appelle Benjamin Bratton.
Oui, Benjamin Bratton, c'est quelqu'un qui enseigne aussi en Californie plutôt le design et qui a fait un livre qui s'appelle, alors en anglais, The Stack, qu'on a traduit en français par le stack. Le stack, ça veut dire l'empilement. Et qu'est-ce que c'est que ce que nous décrit le stack? Il appelle ça une méga structure accidentelle. C'est d'essayer de se représenter, comme vu depuis Saturne, ce que c'est qu'Internet sur la planète Terre. Et quand on pense ça habituellement, il me semble, on se dit, tiens, c'est justement de la donnée, c'est quelque chose qui serait à la surface. On avait des gens comme Thomas Friedman du New York Times qui nous disait, le monde est plat, la mondialisation, la globalisation, c'est que le monde est plat. D'accord. Bratton, il nous dit le contraire. Il nous dit, il faut comprendre la verticalité dans cette censée platitude des données qui circulent à travers nous. Et donc, il distingue 6 couches. On va commencer par le bas, la couche du bas. Tout à l'heure, vous disiez la matière brute, c'est des données. La matière brute, c'est aussi du silicium, c'est aussi quelque chose qui va produire l'électricité, c'est du nucléaire, c'est tout ceci. Donc d'abord, on commence avec la Terre. Première couche, la Terre, et on se rend de plus en plus compte que le numérique, le virtuel, etc., ça épuise aussi la Terre. Première couche. Deuxième couche, le cloud. Le nuage, là, on comprend bien que c'est pas le nuage qui flotte sur nous, mais c'est justement ces données qui ne flottent pas, mais qui sont dans des serveurs. Serveur, c'est le disque dur de quelqu'un d'autre. Donc on a le cloud avec des plateformes, avec les GAFAM dont on parlait tout à l'heure. Couche supérieure, la ville. Parce que les données, ça fonctionne à travers des corps humains, 50% de la population humaine, ça vit en ville, et il faut toute une logistique pour alimenter ces villes. Donc, ville. Ensuite, couche supérieure, l'adresse. Ce qui fait qu'on existe dans ce monde du stack, c'est pas tellement des identités, même si vous avez discuté tout à l'heure le fait que la reconnaissance faciale, ça essaye de lier quoi ? De lier des identités à des corps, mais ça passe par des adresses. Couche supérieure, des interfaces. Toutes ces données, elles n'existent pour nous, nous ne pouvons les utiliser qu'à travers tout un jeu de logiciels d'interface. Et dernière couche, les utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une recherche sur Google ? Moi, utilisateur, je fais une demande ou je clique, ça passe par des interfaces, ça passe par mon adresse, ça mobilise des choses qui vivent autour des villes. S'il n'y avait pas ces villes et toute cette logistique, si ceci s'effondre, il n'y a plus rien qui existe autour. Ça va sur des serveurs, lesquels pompent de l'énergie pour faire fonctionner et ensuite faire remonter tout ça vers l'utilisateur. Donc, il nous donne une théorie des souverainetés. Tout ceci, c'est des couches de souveraineté. Il n'y a pas seulement la souveraineté des États qu'on a vu tout à l'heure, mais chaque couche a sa souveraineté propre.
Voilà, ça s'appelle Benjamin Bratton, The Stack.
Merci. Zoé Sfez, maintenant. Moi, je vais être très courte. Je voudrais vous parler de Trevor Scholz et d'un tout petit livre qu'il a publié en France très récemment. Mais Trevor Scholz, il faut le dire, c'est donc enseignant-chercheur à New York School for Social Research de New York. Et c'est lui le père du digital labor qui a été repris ensuite par Dominique Cardon et Antonio Casilli qu'on a souvent reçu ici. C'est lui qui, le premier, a été chercher cette fameuse question de dire, en fait, tout ce qu'on nous vend comme de la gratuité, évidemment, est le fruit d'un travail. Il y a à la fois ceux qui travaillent, les livreurs, des livreaux, mais aussi le travail que vous, en tant qu'utilisateur et que consommateurs, vous faites sans imaginer que c'est du travail, celui du référencement, celui qui consiste à entraîner des intelligences artificielles souvent à votre insu. Et c'est un des principaux détracteurs du concept de la plateforme aujourd'hui. Il a publié cet excellent tout petit livre que vous pouvez lire en une heure qui s'appelle 10 principes contre l'ubérisation et le business de l'économie du partage, le coopérativisme de plateforme, donc qui définit dans une première partie ce que c'est que ce coopérativisme de plateforme. Il appelle ça, effectivement, lui dit que c'est une révolution industrielle sans en être une parce que ça ne crée pas de valeur. Il dit que cette économie se nourrit des reste, c'est une réganisation et il va juste un tout petit peu en 10 principes en se basant sur des exemples existants et d'autres qui sont fictifs, souhaitables, donner 10 règles pour que finalement on reprenne la substantifique moelle de ce qu'a inventé Uber, ce qu'a inventé Amazon, qu'on le reprenne à notre compte et qu'on crée des coopératives. L'un des premiers principes pour que ça fonctionne, eh bien, c'est la propriété. Il dit l'économie du partage nous a fait croire qu'il ne fallait plus être propriétaire et il faut de la propriété, évidemment bien répartie. Trevor Scholz, très bon livre.
Comme on manque de temps, je me limiterai pour terminer à un ouvrage. Vous avez parlé de 10 règles. Moi, j'ai 10 arguments pour tout simplement supprimer vos réseaux sociaux. C'est un livre de Jaron Lanier qu'on connaissait pour avoir déjà critiqué la démocratie, son évolution à cause du numérique. Son ouvrage s'appelait Who Owns the Future, à qui appartient le futur. Et dans ce nouveau livre, 10 Arguments for Deleting Your Social Media Account Maintenant, eh bien, il décrit comment on devient méchant, menteur, on perd son empathie, on devient malheureux aussi, on a des addictions et puis enfin on menace la démocratie, tout ça à cause des réseaux sociaux. Alors ça a l'air comme ça un peu simple, mais c'est une analyse assez pertinente, assez forte et qui revient à diminuer très fortement ou dans certains cas fermer ses comptes des réseaux sociaux pour une vie sociale saine et une bonne hygiène de vie numérique. L'auteur s'appelle Jaron Lanier. Alors, on a évoqué ce soir beaucoup de noms d'auteurs, beaucoup d'ouvrages. Tous ces noms et cette liste mise à jour est à retrouver sur le site de France Culture avec les auteurs dont on avait déjà parlé au cours d'émissions antérieures, et on continuera à faire ce travail, à mettre à jour cette liste, et sans doute on refera l'année prochaine une émission sur les penseurs et les penseuses du web. Ce soir d'ailleurs c'était beaucoup des hommes, je crois.
Il n'y avait pas une fille et ça c'est vraiment pas
Wendy
terrible.
Wendy Chun la prochaine fois.
Voilà, on a beaucoup de filles dans notre liste en ligne. On en reste là pour ce soir, merci infiniment à tous les quatre, tous les quatre, Sandrine Cassini du Monde, Gilles Fontaine de Challenge, Zoé Cesse de France Culture et Yves Citon.
Il dit que le stack vient de paraître en français à UGA Édition aussi.
Voilà, on avait oublié de le signaler. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture. Dans un instant, Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, et à dimanche prochain, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.